on en parle. L'émission conso et service de RTS Première.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans On en parle. Bonjour Philippe Girard.
Bonjour Yolin.
On va parler de Heidi ce matin. Et quand on parle de Heidi dans cette émission, il ne s'agit généralement pas de la petite fille des montagnes.
Non, ce n'est pas Heidi, petite fille des montagnes. Non, c'est l'identifiant, vous savez, la clé qui vous permet d'accéder à toutes sortes de services. Bon, on va vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui se profilent à l'horizon.
Surtout depuis la dernière votation sur l'e-Heidi, on verra ce que ça change également. Dans quelques instants, on reparlera ensuite du boom des champignons dits médicinaux. La vérité sur les bienfaits supposés des compléments alimentaires à base de champignons, ce sera vers 9h moins le quart. Et puis Quentin Bollone, dès 9h, nous ouvrons notre guichet à nos auditrices et auditeurs.
Oui, avec cette thématique amour au travail, vous vous souvenez peut-être, Yvalin, du scandale de la Kiss Cam, hein, du concert de Coldplay qui avait révélé l'été passé en direct la liaison adultère du patron d'une grande boîte américaine avec une collègue. Résultat, ils se sont fait virer tous les deux. Mais que dit la loi à ce propos? Les entreprises ont-elles le pouvoir de réguler les relations amoureuses et plus largement, comment gérer sa relation de couple lorsque l'on travaille dans le même environnement? Faut-il être transparent ou pas?
Une psychologue de l'amour et un juriste du travail répondront à toutes vos questions en direct. Appelez-nous dès maintenant pour poser votre question. Racontez votre histoire au 0800 108 208. Vous pouvez aussi nous laisser un message vocal au 076 206 12 12 ou nous écrire un courriel à onenparle@rts.ch. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que les infos de 10h nous séparent. C'est On en parle. Bonjour et bienvenue.
On en parle. Yves-Alain Cornier.
Le 28 septembre dernier, le peuple suisse disait oui à une courte majorité à la loi sur l'e-Heidi. Un mois après la votation, qu'en est-il des identifiants déjà existants, privés ou cantonaux? Quelles sont les solutions proposées par les cantons pour les démarches administratives en ligne en attendant l'identité numérique fédérale? Philippe Girard, vous nous proposez de faire le point sur la situation dans les cantons romands.
Oui, obtenir un extrait du registre des poursuites, consulter des pièces de son dossier fiscal, annoncer un déménagement, s'inscrire dans une école professionnelle, commander des actes d'état civil. Avouez que réaliser tout cela en ligne sans avoir besoin de se rendre physiquement au guichet, qui n'est ouvert que jusqu'à une certaine heure, c'est quand même bien pratique. Hein. On l'avait vu avec le dossier électronique du patient, qui va d'ailleurs devenir le dossier électronique de santé, mais qui existe toujours. Pour l'instant, on ne peut l'ouvrir qu'avec un identifiant électronique. Il en existe une dizaine en Suisse romande, qu'ils soient cantonaux ou privés, comme VoID, donc Vo hein, pour le canton, Trust ID ou Swiss ID par exemple, tout cela alors qu'en soit un seul ID suffirait.
Et justement, on a voté, cette e-ID fédérale permettra-t-elle de se connecter à tous les services?
Oui, alors pas si vite. L'e-ID, ça n'est pas un login ou un identifiant, c'est la version virtuelle de votre carte d'identité. Par contre, cette carte d'identité numérique sera quand même utile pour se connecter aux services étatiques, mais techniquement, cela se fera via un identifiant fédéral qui est assez nouveau et qui s'appelle AGOV.
AGOV, voilà un nom de plus dans la santé numérique. Alors concrètement, ce AGOV, il servira à quoi?
Alors c'est un identifiant fédéral qui permet de se connecter à des services de la Confédération et des cantons et qui a pour vocation de remplacer tous les identifiants existants. Aujourd'hui, AGOV s'utilise avec une application du même nom. Les cantons de Berne et du Valais le proposent déjà. Les 5 autres cantons romands sont tous en train de préparer sa mise en place pour compléter ou remplacer les logins existants. Ils vont tous accepter l'e-ID via AGOV. Certains ont toutefois prévu une phase transitoire où les anciens logins restent en vigueur à long terme ou provisoirement.
Si vous êtes perdu, restez en ligne puisque Rolf Rauschenbach est avec nous pour clarifier tout ça. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Vous êtes chargé d'information sur l'e-ID au sein du département fédéral de justice et police en direct de notre studio de Berne. Alors la population a accepté l'e-ID fédéral, ce qui ne veut pas encore dire qu'elle a totalement compris de quoi il retourne. Enfin je parle en partie pour nous ici. Vous pouvez nous la décrire maintenant un peu plus concrètement à quoi elle ressemble cette e-ID?
Volontiers. Donc l'identité électronique, c'est la version numérique de la carte d'identité pour les Suisses ou aussi le passeport. Aussi les étrangers qui habitent en Suisse et qui ont une carte de séjour sont éligibles pour une identité électronique. Donc l'identité électronique, elle reste sur le smartphone et permet de transmettre des informations vérifiées sur ma propre identité en ligne ou sur place.
Ça voudrait même dire que pour passer la frontière, on pourrait montrer simplement son téléphone. On a bientôt plus besoin de la carte d'identité plastique.
Alors, à long terme, c'est un scénario possible. À court terme, sûrement pas. Pour cela, il faudra une reconnaissance par des autres pays ou même, par exemple, l'Union européenne. On n'a pas encore pu réaliser cette reconnaissance officielle. Donc, au début, l'identité électronique sera principalement utilisable en Suisse.
Et justement, au début, à court terme, comme vous dites, c'est quand elle existera quand réellement sur les téléphones de tous les Suisses et les étrangers d'ailleurs résidents?
Alors, d'accord. Tout d'abord, il faut mentionner qu'une version de test existe déjà. Nous sommes maintenant en train de finaliser la base légale et aussi la solution technique. L'identité électronique devrait être disponible le plus tôt, le troisième trimestre de l'année prochaine. L'objectif, c'est que l'identité électronique soit à la fois très sûre et aussi très simple pour les utilisatrices et utilisateurs.
Et cette EID, Rolf Rauschenbach, elle sera aussi utile pour se connecter à des services de l'État en ligne ?
Oui, c'est correct. Aujourd'hui, vous avez déjà mentionné qu'il existe ce nouveau login fédéral qui s'appelle AGOF. Aujourd'hui, pour pouvoir utiliser ce service, soit on a besoin d'une application qui s'appelle AGOF Access App. On peut aussi utiliser des tokens pour faire la même chose si on ne veut pas utiliser son smartphone. Donc aujourd'hui, c'est ça la situation. Avec l'identité électronique, on pourra s'identifier, se loguer pour des services publics avec l'identité électronique via AGOF.
D'accord, mais ça veut dire que l'EID va remplacer AGOF ou que les deux vont coexister ?
Alors, il faut bien distinguer, d'une part, l'EID, l'identité électronique, comme version numérique de la carte d'identité, et le système de connexion, le système d'accès. Ce système d'accès, qui s'appelle AGOF, va toujours continuer à exister. Il sera techniquement nécessaire. Mais pour des gens qui ont une identité électronique, cette personne peut accéder aux services publics où il faut un login avec l'identité électronique via AGOF.
Voilà, donc l'EID, on a bien compris, c'est une carte d'identité, puis AGOF, c'est juste une clé, hein, ça remplace pas la carte d'identité. Mais avouez quand même que c'est un peu confus, hein, parce que si on prend l'exemple du Valais qui propose trois identifiants à choix pour réaliser les démarches administratives en ligne, les citoyennes et citoyens ont le choix entre l'identité valaisanne, IAM, Swiss ID, donc service privé de la Poste, ou AGOF, donc le service d'authentification de la Confédération. Donc tous ces noms différents, quand même, c'est assez compliqué pour s'y retrouver.
Bon, ça reflète le fédéralisme suisse. Les cantons sont souverains, les communes sont autonomes. Ils peuvent proposer leurs propres solutions. Et comme auparavant, il n'existait pas un service fédéral qui pourrait être réalisé et appliqué partout, des différents systèmes existent aujourd'hui. Il faut aussi mentionner, comme vous l'avez fait, aussi des solutions privées. Donc, c'est la réalité aujourd'hui. Maintenant, avec AGOF, AGOF peut contribuer et simplifier cette situation et harmoniser le paysage des logins publics. Il faut quand même insister que AGOF peut être utilisé seulement dans le domaine public, pas dans le domaine privé.
Rolf Rauschenbach, si par hasard tout ce que vous venez d'expliquer nous rebute un peu, c'est trop compliqué pour nous, est-ce qu'on va être obligé toutes et tous de choisir un de ces services, un de ces logins, cette EID, ou est-ce qu'on pourra continuer de faire toutes nos démarches en dehors de ces systèmes, et notamment parce qu'on parle du dossier électronique de santé qui va remplacer le dossier électronique du patient, important pour passer des informations médicales d'un médecin à un hôpital, savoir si on était vacciné ou pas. On ne pourra pas s'en passer ou on a le choix encore à l'avenir ?
Non. Le Conseil fédéral était très clair. Le choix sera permis aussi dans le futur. Les personnes qui veulent utiliser un service numérique peuvent l'utiliser et on est en train d'offrir, on espère bien, des solutions plus sûres plus utile, plus simple. Mais les personnes qui veulent continuer avec des services analogiques peuvent le faire, bien sûr.
Alors cet accès à Agov se fait actuellement via l'application Agov Access, mais à terme il pourrait se faire aussi par l'application Swiu. Alors ça c'est encore un nom supplémentaire, on en avait déjà parlé dans cette émission, Swiu, S-W-I-Y-U. À quoi va servir Swiu?
Alors, Swiu, oui, ça c'est intéressant, c'est encore un autre terme, c'est le nom du portefeuille électronique où vous allez garder, conserver votre identité électronique et aussi d'autres justificatifs que des autorités ou des entreprises peuvent émettre. Donc, Swiu, c'est un portefeuille électronique pour des justificatifs électroniques. Agov Access App, c'est aussi une application, mais elle sert seulement pour le login Agov.
Voilà donc qui permet en tout cas de mettre des explications derrière tous ces noms et acronymes dont on entendra de plus en plus parler. Vous l'avez dit déjà, peut-être ou plutôt au troisième trimestre de l'année prochaine, 2026. Merci beaucoup Rolf Rauschenbach. Je rappelle que vous êtes chargé d'informations sur l'EID, donc l'identité électronique fédérale au sein du département fédéral de justice et police. On vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup également.
Et merci à Frédéric Vollery et Bastien Fonvis qui ont préparé ce sujet. Dans 3 minutes, la vérité sur les champignons dits médicinaux et dans 1 seconde, une information routière.
Infotrafic RTS.
Prudence sur la bretelle autoroutière de Lausanne Sud. Des objets ont été perdus sur la chaussée entre l'échangeur d'Écublanc et Malais en direction de la Maladière.
On en parle. L'émission conso et service de RTS Première.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Ordinary, c'était Alex Warren à 8h47. Retour sur le boom des champignons dits médicinaux dont nous parlions le 23 janvier dernier.
La mycothérapie, c'est le fait d'utiliser les champignons et plus spécifiquement des champignons médicinaux pour son bien-être et pour sa santé. Et chaque champignon va avoir des molécules très spécifiques. Le reishi, par exemple, répond à cette problématique de sommeil ou de stress que l'on peut connaître dans la société. Le lion's mane répond à un autre problème, qui est le problème de concentration et de mémoire. Le cordyceps, c'est un champignon qui est formidable pour l'énergie ou la performance physique. On a le chaga, qui est le super aliment en fait le plus antioxydant au monde. 10 fois plus antioxydant que la fameuse spiruline. Ça sert justement à avoir une bonne immunité. Si avec seulement 12 champignons, on est capable de faire ça, qu'est-ce qui va se passer le jour où on va vraiment en étudier d'autres? Et qu'est-ce qui va se passer le jour où on en aura 100 qui seront vraiment reconnus?
Ça, c'est le champignon magique de Super Mario, Catherine Ruttimann. C'est quoi ce qu'on vient d'entendre là?
Alors, c'est le pitch de vente d'une entreprise française spécialisée dans la production de compléments alimentaires faits à base de champignons dits fonctionnels ou adaptogènes. On parle aussi quelquefois de champignons médicinaux, mais la terminologie n'est pas admise en Suisse. Ces compléments existent sous forme de poudre, de gélules, de gouttes ou encore de boissons comme du cacao ou du café. Ces sites de vente poussent, pour ainsi dire, comme des champignons, hein, aussi en Suisse, avec un marketing soigné et un discours assez séduisant. Il est quelquefois question d'effets bénéfiques même sur les cancers, le système cardiovasculaire ou hépatique et pour réduire le cholestérol.
Est-ce que ces allégations sont fondées ?
Alors, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver une réponse définitive à cette question. On m'a envoyé des liens vers des études, on m'a parlé de recherches scientifiques insuffisantes à l'heure actuelle, mais de premiers résultats prometteurs. On m'a dit que la médecine chinoise utilisait ces champignons depuis 2000 ans et que la pratique était éprouvée, mais que cette approche était difficile à réconcilier avec la médecine occidentale. Alors, pour décrypter tout ça, j'ai passé un coup de fil à Mapi Fleury, qui est pharmacienne cadre au département d'oncologie du CHUV et qui intègre certaines approches complémentaires dans les traitements contre le cancer.
Pour moi, c'est pas du tout farfelu d'utiliser ce qu'on appelle les champignons. En tout cas, c'est certainement pas farfelu, scientifiquement parlant, de chercher à l'intérieur des substances intéressantes. Après, ce que je déplore un petit peu, c'est cette dérive que j'ai déjà vue pour beaucoup d'autres substances, entre guillemets, complémentaires, où on imagine, on va prendre cet organisme-là, c'est naturel, et puis on va prendre l'organisme dans son entier, et on va oublier que plus qu'un champignon, c'est un assemblage tout à fait fabuleux de principes actifs. Prenons par exemple le fameux reishi. Aussi fou que ça puisse paraître, on l'étudie celui-là depuis à peu près les années 80, on n'a pas trouvé une indication, honnêtement, qui fonctionne vraiment bien chez l'humain, malgré qu'il y ait eu beaucoup d'études avec beaucoup d'indications qui ont été testées. En fait, on sait surtout sur quoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour l'hyperlipidémie, si vous avez trop de cholestérol, par exemple, ça ne marche pas de prendre ce champignon-là.
Alors, existe le reishi, mais ça ne disqualifie pas forcément tous les champignons.
Non, bien sûr, mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'éléments qui prouveraient quelque efficacité que ce soit chez l'humain. Mapi Fleury.
Au département d'oncologie, notre philosophie, c'est qu'il n'y a aucune piste qui doit être laissée de côté. Donc, on dit aux patients, venez, montrez-nous, nous, on est incroyablement intéressés par tout ce que vous avez entendu puis tout ce que vous voulez utiliser. Moi, je demande qu'on monte les études. Je serais tout à fait intéressée si quelqu'un a une idée pour un champignon particulier qui aurait une, disons, action anti-cancer, parce que ça, j'ai aussi vu parfois, j'aimerais vraiment lire les études. Mais soit c'est des collectifs qui sont trop petits, il n'y a pas assez de patients qui ont été inclus dans l'étude, soit il n'y a pas de comparatif avec une autre substance qui serait référence, soit c'est une extrapolation directe de quelque chose qui a été constaté sur des cellules dans une éprouvette ou bien sur des souris au laboratoire. Et sauf erreur, mes patients, c'est pas des souris, vous pouvez pas. Enfin, moi, j'aimerais bien, mais vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui a été constaté chez la souris et puis l'amener directement chez l'humain.
Bon, mais alors, on peut se dire que dans le doute ou en attendant qu'on ait pu démontrer un effet sur notre organisme, on peut toujours prendre ces compléments alimentaires. Ça ne mange pas de pain.
Oui, enfin, la probabilité que ça ait l'effet escompté est tout de même très mince. Même avec la présence de molécules intéressantes, c'est pas comme un médicament standardisé avec un dosage bien précis. On est dans quelque chose quand même de très aléatoire et cette consommation n'est pas non plus anodine. On continue avec l'exemple du reishi.
À la base, vous, avec plein de bonnes intentions, vous vouliez prendre un simple champignon et puis pour avoir un effet thérapeutique, pour peu qu'il existe, vous allez avoir bien des problèmes à trouver un produit qui réponde un peu à vos besoins. Par contre, les effets indésirables, vous allez tout de suite vous les rencontrer, hein, ça c'est sûr. Même si c'est relativement bien toléré, vous pouvez avoir des démangeaisons cutanées, il y a des patients qui vont faire des nausées, des brûlures d'estomac, il y en a qui n'arriveront plus à dormir la nuit, ce qui est quand même un peu dommage. Et puis, si vous prenez déjà des médicaments pour fluidifier votre sang, des anticoagulants, c'est vraiment pas un champignon qui est fait pour vous.
Oui, donc ça peut même être dangereux dans certains cas.
Oui, si vous prenez ce genre de complément alimentaire, il faut le signaler à votre médecin traitant. Hein. Ça peut interférer avec d'autres traitements et c'est carrément déconseillé dans certains cas. Et puis, il faut garder en tête que malgré leur étiquette bien fait de la nature et production artisanale qui a l'air assez sympa, hein, comme ça, on parle là de produits transformés, faits à partir de champignons cultivés de manière industrielle, en particulier quand ils viennent de loin. Et il peut y avoir d'autres déconvenus mapifleuris.
Tout est balance bénéfice-risque. Et puis, c'est un peu dommage, s'il n'y a pas de bénéfice, de prendre le risque d'ingérer des choses qui ne sont pas forcément caractérisées. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le problème du fait qu'il n'y a peut-être pas la molécule qui vous intéresse à l'intérieur. Mais il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que sur l'emballage, dans le meilleur des mondes, il faudrait que vous puissiez trouver la teneur en métaux lourds, en arsenic, en cadmium, en mercure, parce que le champignon, il se nourrit bien de quelque chose. Il faudrait trouver s'il a été élevé avec des pesticides, et puis trouver au moins la preuve que ce qui se trouve à l'intérieur de la capsule est vraiment le champignon que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble plus à une poudre grise qu'une autre poudre grise. J'ai envie de donner le conseil que je donne à tous mes patients, achetez pas par correspondance. Aucun complément alimentaire, achetez pas en vente directe auprès d'un praticien de santé, achetez en grande surface ou bien achetez vers quelqu'un vers qui vous pouvez vous retourner s'il y a quelque chose qui tourne mal. Si vous achetez en grande surface, au moins, vous êtes couvert par typiquement le SAV, des services concrètement qui vont faire des prélèvements de manière à l'aveugle standardisée pour voir un petit peu ce qui est contenu dans les produits. Si vous achetez par correspondance ou bien en vente directe, et puis subitement, pas de chance, vous faites partie de ces très 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 malheureux qui font des lésions du foie lorsqu'ils prennent certains types de champignons. Vous n'aurez plus vos yeux pour pleurer, en fait, vous êtes le seul à porter la responsabilité des produits que vous ingérez.
Et donc prudence, mais rassurez-moi Catherine, manger des champignons, ça on peut encore le faire.
Oui, ça on peut, il faut juste pas en attendre des vertus thérapeutiques. L'office du chimiste cantonal Genevois rappelle que, je cite, « en principe, aucun effet thérapeutique n'est autorisé pour les denrées alimentaires », fin de la citation. Donc si on vous promet la lune en vous vendant ces compléments, la pratique est vraisemblablement illégale. Par contre, si ça permet de varier votre alimentation et de découvrir de nouvelles saveurs, et qu'en plus c'est produit pas loin de chez vous, c'est tout bénéfique.
Merci Catherine Ruttimann et merci à Mapi Fleury pour ses conseils. Mapi Fleury qui est donc, je le rappelle, pharmacienne cadre au département d'oncologie du CHUV et qui intègre certaines approches complémentaires dans les traitements contre le cancer.
Des conseils pratiques, un éclairage sur votre quotidien, on en parle jusqu'à 10h.
Connais pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là. Qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise,
connaît pas la crise s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ses lèvres, mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe les trésors satinés dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi,
ma petite entreprise. Alain Bachung à 8h58.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement nord de Lausanne, un bouchon est en place entre la Blecherette et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction de Genève. On en parle, va s'interrompre quelques minutes maintenant, le temps d'écouter les informations. Et on revient juste après avec notre guichet Quentin Bollone. On va se demander si l'amour au travail, c'est une chance ou finalement le début des problèmes.
Oui, bah, beaucoup de couples se forment au travail. 8 couples sur 10 se seraient déjà formés. En tout cas, des personnes auraient eu une aventure au travail. Donc voilà, finalement, que dit la loi? Est-ce qu'on peut virer une personne parce qu'elle a eu une rupture avec un collègue dans une entreprise? Est-ce que finalement, comment on allie vie de couple et dans le privé et dans la vie professionnelle? Est-ce qu'on doit tout arrêter de parler de couple après la truc? Ben, on en parlera tout à l'heure. Appelez-nous 0800 108 208.
L'heure avec RTS Première.
Vous l'avez compris, on répondra donc à vos questions sur l'amour au travail dans 6 minutes. Mais pour l'heure, voici le journal. Il est 9h.
Agathe Birden.
Nicolas Sarkozy sortira-t-il de prison aujourd'hui? La Cour d'appel de Paris examine ce matin sa demande de mise en liberté. Fin septembre, la justice française condamnait l'ancien président à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Elle reconnaissait sa responsabilité dans le financement de la campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. Un verdict, Olivier Chorderey, que l'ancien chef d'État n'a jamais accepté.
Ce 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy annonce d'ailleurs la couleur.
Naturellement, je ferai appel. Je dois passer 5 années en prison. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible.
Le 21 octobre, Nicolas Sarkozy entre donc à la prison de la Santé à Paris. Pour justifier leur décision, les juges évoquent la gravité exceptionnelle des faits reprochés, mais les avocats de l'ancien président déposent une demande de mise en liberté. Ils jugent cette incarcération honteuse. Elle durera 3 semaines, 1 mois, tout au plus. Pour eux, rien ne justifie son maintien en détention, ni le risque de fuite, ni de récidive, entre autres. La justice a d'ailleurs déjà remis en liberté sous contrôle judiciaire l'un des autres condamnés à la prison ferme. Les avocats de Nicolas Sarkozy demandent donc eux aussi le retour à la maison de leur client, bracelet électronique à la clé. Cette demande, la cour d'appel va commencer à l'examiner d'ici une demi-heure. Nicolas Sarkozy devrait comparaître en visioconférence et la décision tombée dans la journée, avec donc peut-être dans la foulée sa libération. Il y aura de toute façon un procès en appel sur ce dossier libyen prévu pour l'heure en mars prochain.
Merci Olivier Chorderey. Le gouvernement jurassien bascule à gauche et c'est historique. Le Parti Socialiste a remporté la majorité absolue au Conseil d'État hier avec 3 sièges. Le centre, lui, a conservé ses 2 sièges à l'exécutif tandis que l'UDC n'a pas obtenu le siège espéré, même si le parti a été tout proche d'y arriver. Le sortant Martial Courtais, qui s'était lancé en indépendant, a été éjecté de l'exécutif. Le train de nuit Bâle-Malmö en Suède devient deviendra-t-il vraiment réalité? Les CFF ont mis en vente les premiers billets de train pour avril, mais le Parlement doit se prononcer le mois prochain sur une subvention de près de 10 millions de francs par an. Des élus de droite et du centre s'y opposent. Ils la jugent trop élevée pour financer des transports de loisirs. Le grison Martin Candinas, lui, la soutient. Le conseiller national du centre préside la LITRA, association qui s'engage pour les transports publics en Suisse.
Les CFF ont fait ça que le Parlement voulait. Ils ont cherché des bonnes prestations et ça, c'est une possibilité avec Malmö. Moi, je trouve que c'est juste que les CFF ont dit « nous, on a des idées ». Si on dit tout le temps « il faut que les gens vont moins en vol, qu'ils vont en train », alors on doit maintenant aussi faire le deuxième pas et donner ces 10 millions de francs dans un budget de 90 milliards de francs. Pas seulement les Suisses vont dans la Scandinavie, on a aussi la possibilité de prendre de nouvelles touristes en Suisse. On veut rester un pays intéressant pour tous les touristes.
Martin Candinas était l'invité de Valérie Auert. Après 40 jours de shutdown, les États-Unis semblent se diriger vers une sortie de crise. Les sénateurs sont parvenus à se mettre d'accord pour mettre fin à la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire du pays. L'accord provisoire doit permettre, entre autres, l'annulation du licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux. En Allemagne, le procès de l'attentat de Magdebourg débute ce matin. Une attaque à la voiture Bélier sur le marché de Noël de la ville avait fait 3 morts et 338 blessés. C'était le 20 décembre 2024. Sur le banc des accusés, Taleb A, un psychiatre saoudien qui avait obtenu l'asile politique en Allemagne. Nathalie Versieux.
Le marché de Noël bat son plein sur la place historique de Magdebourg en ex-RDA lorsque surgit la voiture de Taleb A. L'homme est arrêté sur place, sa culpabilité ne fait aucun doute. Le procès devra tenter de déterminer ce qui a motivé ce psychiatre saoudien bénéficiant de l'asile politique. Frustration professionnelle, haine de l'islam et de la famille saoudienne, colère contre l'Allemagne qui a accueilli 1 million de réfugiés syrien sunnite, lui-même est chiite. Le procès reviendra aussi sur les lacunes de la coopération entre autorités de l'immigration, police et les différents employeurs de l'inculpé, en raison de nombreux doutes sur sa santé mentale. L'attentat de Magdebourg, suivi de plusieurs agressions au couteau, avait mené à un durcissement de la politique migratoire de l'Allemagne et à une poussée de l'extrême droite aux législatives de février dernier. Nathalie Versieux, RTS Berlin.
La COP30, la conférence de l'ONU sur le climat, s'ouvre aujourd'hui à Belém, au Brésil. Une COP sans nouvelles ambitions, mais avec un enjeu majeur, celui de recréer une mobilisation autour du climat. 200 pays participeront pour réviser leurs engagements à l'horizon 2035, accélérer la sortie des énergies fossiles et préciser les financements pour les pays les plus vulnérables. La COP30 de Belém aura lieu jusqu'au 11 novembre. Les Philippines évaluent les dégâts aujourd'hui après le passage dans la nuit du super typhon Fungguang. Ce dernier a fait au moins 2 morts et a contraint plus d'1 million de personnes à évacuer. Et puis le passage la semaine dernière du typhon Kalmaiji au Vietnam a fait apparaître une épave vieille de plusieurs siècles. Cela pourrait être une découverte historique majeure. Les experts ne l'ont pas encore datée, mais les premiers éléments suggèrent que le navire de plus de 17 mètres a été construit entre le 14 et le 16e siècle. Météo, les bancs de brouillard ou de stratus présents sur le plateau ce matin jusqu'à 1200 mètres devraient se dissiper cet après-midi en partie, en tout cas. Au-dessus, le temps sera bien ensoleillé, il fera 10 degrés en pleine en moyenne cet après-midi. Demain matin, de nombreux nuages bas et des bancs de brouillard sur le plateau et le long du Jura. Ailleurs, du soleil, il fera 12 degrés l'après-midi, temps à peu près identique, mercredi un peu plus chaud. Il fera jusqu'à 14 degrés l'après-midi.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec la Banque cantonale de Genève et ses solutions pour les entreprises.
Vous êtes-vous déjà senti observé, traqué, obligé de disparaître du monde numérique ? C'est le destin de Julia, l'héroïne de votre nouvelle série RTS, Intraçable. Poursuivie par un hacker prêt à tout pour la faire taire, Julia doit fuir, effacer son existence et protéger son fils. Mais en traquant la vérité, elle en devient la cible. Intraçable, votre nouvelle série RTS inédite, à voir dès le 13 novembre sur RTS 1 et déjà en intégralité sur l'application Play RTS.
On en parle. Yves Alain Cornu.
À 9h06 sur RTS, première place au guichet consacré ce matin à l'amour au travail, Quentin Bollen.
Oui, on en a beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps à cause des nombreux scandales liés à cette thématique. L'été passé, le PDG d'une grande boîte américaine était filmé par la Kiss Cam du concert de Coldplay en flagrant délit d'adultère en train d'enlacer son amante, la responsable RH de son entreprise. À la suite de cela, le PDG a été poussé vers la sortie.
Et plus récemment, c'est le CEO de Nestlé qui a été licencié après avoir entretenu une relation amoureuse avec une collègue.
Oui, Laurent Freix a été viré après qu'une enquête interne révélait qu'il entretenait une relation amoureuse cachée avec une collaboratrice qui lui était directement subordonnée. Le conseil d'administration de Nestlé a estimé que le comportement du CEO violait le code de conduite et les directives internes du groupe. Ces cas posent donc beaucoup de questions autour du droit à entretenir une relation amoureuse au travail, mais que dit exactement la loi et que peuvent imposer les entreprises à leurs employés en termes de relations amoureuses?
Ces questions juridiques, vous pouvez nous les poser toute cette heure, donc lors de notre guichet, mais vous pouvez aussi nous contacter concernant vos expériences et interrogations sur les relations amoureuses au travail de façon générale, Quentin.
Oui, car selon une étude, récente étude française, 8 personnes sur 10 auraient déjà eu une relation amoureuse sur leur lieu de travail. Mais alors, comment gérer travail et amour et comment séparer vie privée et vie professionnelle lorsque l'on est en couple dans la même entreprise?
Notre guichet est ouvert dès maintenant, donc vous pouvez contacter avec les 3 canaux différents qu'on connaît bien, mais on les rappelle, Quentin.
Oui, pour nous parler en direct par téléphone, vous composez le 0800 108 208. Pour nous laisser un message vocal, c'est le 076 206 12 12, et on en parle à rts.ch pour les messages écrits. Et si vous souhaitez rester anonyme, c'est possible, dites-le nous lors de votre appel ou de votre message et nous respecterons votre demande lorsque nous relayerons votre question ou expérience concernant cette thématique.
Ouais, pareil d'ailleurs si vous appelez pour nous parler de collègues qu'on n'aurait pas envie de mettre en difficulté.
Oui,
il y a déjà eu assez d'histoires comme ça, on vient de le dire. Et pour nous accompagner et répondre à toutes vos questions tout au long de cette heure, 2 invités. Bon, on va commencer par l'aspect juridique. Pierre Kenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste au cabinet Droit Actif à Lausanne. Alors, que dit la loi en Suisse concernant les relations amoureuses au travail?
Alors, la loi en tant que telle ne dit pas grand-chose. Il n'y a pas de disposition légale dans le code des obligations, mais on a deux dispositions légales topiques qui s'appliquent. C'est tout d'abord le droit de l'employeur de donner des directives sur l'exécution du travail et le comportement dans l'entreprise, mais d'une manière générale, ces directives ne doivent pas s'appliquer à la vie privée, sauf si ça a des conséquences sur l'exécution du travail ou l'ambiance au travail. Donc, forcément, l'amour au travail peut être problématique. Et puis, on a l'autre principe qui est l'obligation de protéger et respecter la personnalité du collaborateur, qui impose à l'employeur de respecter la personnalité de ses employés, ce qui englobe la sphère intime. Donc, normalement, la relation au travail relève, la relation amoureuse relève de la sphère intime et doit être protégé. Mais comme ça peut toucher la relation de travail, le climat de travail et l'exécution du travail, eh ben, la sphère privée du collaborateur est limitée et l'employeur peut donner des directives.
Est-ce que, à votre connaissance, beaucoup d'entreprises font ça? C'est-à-dire que mettent des règles vraiment concernant les relations amoureuses au travail?
Alors, d'une manière générale, c'est vrai qu'on observe cette tendance-là plutôt dans des entreprises internationales, grandes entreprises ou sociétés d'origine anglo-saxonne où il y a une très forte implication sur cette chose-là. Et puis aussi pas mal dans le domaine de la banque ou de la finance. Autrement, dans les autres entreprises, un petit peu moins.
On verra peut-être d'ailleurs au cours d'émission si ça change quelque chose, si le coup de foudre a lieu après que les deux personnes travaillent dans l'entreprise ou si c'est une personne amoureuse qui fait rentrer son compagnon, sa compagne dans l'entreprise. Il y a peut-être différents cas de figure. On verra ce qui vient de la part du public au 0800 108 208. Mais on va aussi parler de cette relation complexe peut-être aussi, peut-être facile du coup puisque ça se passe au travail, à voir. C'est avec vous, Laurence Dispo, qu'on posera ces questions. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute, sexologue et thérapeute de couple dans la région de Morges. Alors, Quentin le disait en introduction, 8 personnes sur 10 auraient déjà eu au moins une relation amoureuse au travail. Ce chiffre, il vous surprend? Vous le connaissiez?
Je ne connaissais pas ce chiffre. Je dois dire qu'il ne me surprend pas du tout. Si on comptabilise les relations type attirance, flirt, ou des relations plus poussées, ou des relations vraiment qui vont se construire, des histoires d'amour qui vont aller vers une relation de couple, ça ne m'étonne pas du tout, en effet.
Laurence Dispo, pourquoi le lieu de travail, c'est un lieu aussi propice aux rencontres amoureuses?
Déjà, l'élément le plus évident, c'est la proximité. Donc, on va passer énormément de temps avec cette personne, potentiellement beaucoup d'interactions. Des interactions qui sont pas seulement nombreuses, mais souvent assez intenses, parce que chargées émotionnellement. On est dans un lieu que souvent on va investir émotionnellement. On va chercher de la valorisation, on va chercher de l'encouragement, on va travailler sur des projets ensemble, on va faire face à un stress, à certains défis ensemble, on va être solidaires. Donc, on va vivre beaucoup d'émotions ensemble.
Et puis c'est aussi un des lieux où on se rencontre physiquement, hein, où on se voit physiquement, ce qui n'est pas vraiment le cas
beaucoup,
dans notre...
Beaucoup de temps, souvent.
Ouais. Absolument. C'est vrai que si je regarde ma patientèle aujourd'hui, les personnes qui sont en quête de rencontre vont me dire, bon, il y a les sites de rencontre, mais ça ne me convient pas. Et effectivement, ça ne va pas à tout le monde, les sites de rencontre. Tandis qu'au travail, quelque part, on a en même temps la petite excitation de la transgression. On sait bien que ça ne se fait pas trop, ou c'est censé pas trop se faire. Et en même temps, on est en sécurité. On connaît la personne, ou en tout cas on a l'impression de la connaître depuis un certain temps, de partager des valeurs, d'avoir un aperçu de sa personnalité. Du coup, on a en même temps la sécurité ou le sentiment de sécurité qu'on n'a pas sur les applis de rencontre, et ce petit frisson de l'interdit.
Peut-être de façon très générale, est-ce qu'on peut donner 2-3 conseils pour réussir à allier vie amoureuse et vie professionnelle ?
Oui, alors déjà, on va mettre des limites, on va poser des limites. Moi, j'aime bien parler de casquettes. On a la casquette professionnelle, on a la casquette relation. Et il faut bien savoir à quel moment on endosse quelle casquette et expliciter, ah ben là, on est en train de faire la transition. On est en train de rentrer à la maison, ou bien on a un rendez-vous amoureux. On va enlever la casquette travail, on va essayer de parler d'autres choses et d'avoir des activités qui sont moins en lien avec notre rôle professionnel. Donc, on va poser des limites et on va aussi bien délimiter les rôles.
Et puis, que conseillez-vous à vos patients ? Je regarde Perry Kenberg, en même temps le juriste, avec sa cravate très sérieuse. Il y a peut-être des fois des couples chez vous qui vous disent « Mais nous, on sait qu'on n'a pas le droit dans l'entreprise parce qu'il y a un rapport de subordination, X, Y. » Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous devez arrêter ou soyez discret ? Qu'est-ce qu'on conseille vraiment ? Là, je parle vraiment de l'amour et pas de la loi et les règlements de travail.
Oui. Moi, je ne vais pas donner des conseils. Je vais essayer de creuser un petit peu le vécu émotionnel des deux personnes et les impacts de leur situation sur leur relation. Mon premier rôle étant quand même de thérapeute de couple, je vais essayer de voir dans leur relation ce qui est influencé, ce qui est peut-être mis à mal par leur situation professionnelle, parce que parfois, effectivement, c'est assez compliqué de faire la différence et de protéger la sphère relationnelle. Comme j'imagine que c'est difficile de protéger la sphère professionnelle aussi dans le sens inverse.
Alors Perry Kenberg, justement, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a vraiment une relation qui s'installe et qu'on sait que ça contrevient, par exemple, au règlement de l'employeur ? Le mieux, c'est qu'une des personnes parte, enfin, pour faire bien les choses, ou qu'est-ce qu'on fait ?
Alors écoutez, d'une manière générale, c'est vrai que toute relation sur le lieu de travail n'est pas forcément problématique, mais toutes celles qui impliquent un contact de relation directe, en lien de subordination, donc un cadre avec son subordonné ou un rapport de formation, sont forcément pratiques, problématiques, parce qu'elles sont de nature à créer un conflit d'intérêts. Donc dans ce cas-là, effectivement, alors des fois certaines entreprises ont une réglementation qui prévoit un devoir d'annonce, mais dans tous les cas de figure, effectivement, il faudrait pouvoir s'annoncer auprès des ressources humaines, annoncer la relation, de telle sorte à ce que des mesures puissent être prises. Si on est d'une grande entreprise, on pourrait imaginer qu'on peut déplacer l'un des deux collaborateurs dans un autre service, de telle sorte qu'il soit plus dans un lien de subordination, qu'il soit plus dans un lien de relation directe quotidienne dans l'exécution des tâches. Donc ça peut se faire plus facilement dans une grande entreprise. Après, effectivement, au bout d'un moment, si c'est une petite société qui a quelques employés, effectivement, ça peut être assez problématique si le cadre ou le seul cadre en dessous du directeur est en lien direct avec en couple, avec en subordonné. Et puis dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'un départ du collaborateur peut être judicieux.
Voilà, un choix qui peut être parfois épineux, on imagine. En tout cas, si vous l'avez vécu, si vous êtes en train de le vivre, vous connaissez voilà, quelqu'un à vous poser des questions au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à les partager avec nous par téléphone. Maintenant, ce serait bien, parce que jusqu'à 10h, ça passe vite. C'est souvent vers la fin qu'on commence à appeler. Après, on n'arrive plus à prendre tout le monde. Donc, profitez. Pour l'instant, c'est assez calme. Au standard 0800 108 208. Le numéro est gratuit en plus. Donc, prenez votre temps pour raconter tout ça. 0800 108 208. Vous pouvez également, si vous n'avez pas le temps de rester à l'antenne, envoyer un vocal par WhatsApp ou autre application au 076 206 12 12 ou écrivez-nous un email à onenparle@rts.ch et puis on l'a dit, on ne donnera pas votre nom ni votre prénom si vous ne le souhaitez pas. Pour l'heure, voici un peu de musique. On se retrouve donc juste après avec de nouvelles questions.
She got the pay. Other places I could go. Sometimes I get to losing all. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it.
Elegantly Wasted des Hermanos Gutiérrez, les frères Gutiérrez, un duo suisse peu connu ici, mais qui est écouté sur le continent américain avec des millions d'écoutes sur les plateformes musicales, comme quoi nul n'est prophète en son pays. Voilà ce que nous signale notre programmateur musical Willy Dezelu.
Le guichet dont on en parle, 0800 108 208.
Retour à notre guichet du jour avec Laurence Dispo, psychothérapeute, sexologue et thérapeute de couple, et Péric Henberg, juriste au cabinet Droit Actif. On parle des questions d'amour au travail, Quentin Bollen.
Oui, et on parlait juste avant du fait que, voilà, dans une relation amoureuse sur le lieu de travail, parfois une des deux personnes doit quitter le lieu de travail parce que c'est, voilà, dans les directives, ce n'est pas possible de le faire. En général, vous, Péric Henberg, lorsque vous, voilà, dans vos cas, ce que vous avez pu observer, qui c'est qui parle en général, c'est l'homme, c'est la femme, c'est la personne avec le poste à le plus élevé, le plus faible. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça?
Souvent, effectivement, par rapport au sexe, j'ai pas de constater de choses particulières, mais c'est effectivement souvent le cas. Si c'est un cadre, par exemple, qui a une position plus élevée ou plus importante, un rôle plus crucial dans l'entreprise, qui va rester en poste, et puis la personne avec un profil plus subalterne, qui va être déplacée, qui va être mise dans un autre département ou qui va quitter l'entreprise.
Laurence Dispo, comment le couple survit à ça quand la personne la moins bien placée dans l'entreprise, celle qui était peut-être moins bien payée, on ose peut-être imaginer qu'encore aujourd'hui, c'est bien souvent la femme qui est dans ce cas de figure. Comment on survit à ça en tant que couple?
C'est une situation délicate. Je pense que ça peut aller dans deux sens. Ça peut aller dans un sens plutôt négatif pour le couple, où vous avez pris l'exemple de la femme qui devait quitter l'entreprise, où si ce sentiment peut-être de pas être assez importante ou aussi importante que l'autre, ou d'avoir des fonctions moins importantes que l'autre, ou d'être quelque part en deuxième plan, peuvent réveiller des sentiments qui étaient déjà peut-être à la base dans la relation. Je suis moins importante que l'autre. Si ça, ce sentiment-là est réveillé, ça peut être assez problématique en termes de blessures dans le couple. Dans un sens où ça peut aller de manière positive, c'est quand les deux personnes ont l'impression de protéger leur sphère relationnelle et elles se disent, ben voilà, on fait équipe, on est complice pour les deux donner une chance à notre couple. Et ça, ça peut être assez positif. Si je me mets du côté de la personne qui va rester en place, il peut y avoir quand même un petit peu de pression. Je suis du coup responsable de garder ce poste, de bien réussir dans mon poste, de bien subvenir aux besoins de mon couple et de ma famille, parce qu'on a fait ce choix. Donc il peut y avoir une pression qui est un petit peu accrue sur la personne qui va rester en poste.
On parlait justement de cette relation dans l'entreprise où on peut avoir un cadre qui est avec une personne qui est moins élevée dans l'entreprise. Est-ce que ça, finalement, dans la relation privée, est-ce que ça subsiste? Je veux dire, comment on fait pour corriger ça, entre guillemets, pour pas avoir cette relation qui perdure dans notre vie privée lorsqu'on est à la maison?
Il peut en effet y avoir une espèce de contamination qui se fait, où la personne qui est le boss au travail reste aussi dominant à la maison. Alors pour certains couples, ça convient extrêmement bien, parce que voilà, on a une préférence pour tel ou tel rôle. C'est pas par hasard peut-être qu'on a choisi une personne, un partenaire qui avait un rôle complémentaire à nous, et finalement ça peut très bien marcher à la maison. Parfois il y a une inversion des rôles qui se fait, mais ça souvent c'est assez instable, assez coûteux en énergie et pas très durable.
Et comment arrêter de parler boulot lorsqu'on rentre à la maison? Parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, on travaille dans la même entreprise, on va faire que de parler de travail lorsqu'on est à la maison.
Oui, et puis bon, si on regarde les couples autour de nous, si on regarde nos couples, la réalité est qu'on va quand même pas mal parler de travail, parce qu'on a beaucoup d'émotions qui sont impliquées au travail. Y a le statut, il y a notre perception de nous-mêmes, il y a beaucoup de choses importantes qu'on a envie de relayer à notre partenaire. Donc comment est-ce qu'on s'arrête? On peut imaginer un petit rituel de transition. On peut imaginer qu'on enlève les casquettes, qu'on change les casquettes. On peut imaginer un petit rituel corporel, hein, un hug, un bisou, un moment où on se rapproche et on se dit, ok, là maintenant, on est David et Jeanne, je ne sais, à la maison. Et on fait vraiment cette transition.
Péric Henberg, comment on fait très concrètement quand on doit informer son employeur d'une relation qui visiblement, alors j'imagine que c'est pas la première soirée qu'on a passée ensemble, que le lendemain matin on doit aller se dénoncer au RH, mais disons si on ou peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas si la relation s'installe, très concrètement on fait quoi? On va à deux solliciter un rendez-vous avec le supérieur commun, comment ça se passe?
Alors effectivement, bon, au niveau de la temporalité, il y a rien qui est dit une fois de plus dans la loi. Effectivement, le faire immédiatement s'il y a juste eu un petit, c'est un tout début de relation, c'est peut-être un petit peu délicat, mais veillez à ne pas tarder non plus, parce que si tout d'un coup c'est découvert ou que l'annonce s'effectue parce que les amoureux prennent leur temps pour annoncer puis attendent de nombreux mois avant de l'annoncer, ça pourrait leur être reproché d'avoir voulu cacher les choses, donc peut-être ne pas trop tarder. Effectivement, la possibilité, c'est soit au supérieur ou effectivement aux ressources humaines qui, eux, disposent ensuite des moyens pour enregistrer, entre guillemets, cette annonce et voir du point de vue de l'entreprise quelles mesures peut-être prise. Parce que parce que effectivement après suite à une annonce l'entreprise c'est vraiment du cas par cas, on peut pas dire oui non, ça va être dans chaque cas d'espèce que l'entreprise va déterminer en fonction des postes occupés, de la taille de l'entreprise et peut-être que elle va devoir prendre des mesures comme déplacer quelqu'un en disant, bah écoutez, c'est peut-être pas l'employé qui va partir, mais c'est peut-être l'employeur qui va devoir dire, bah non, vous ne pouvez plus collaborer ensemble, et mettre des mesures, peut-être en congé modification, pour faire changer de poste à une personne. Donc c'est l'entreprise après qui va prendre les mesures.
Mais on peut comprendre que ce soit peut-être compliqué pour les personnes de s'annoncer si c'est contraire justement aux directives de l'entreprise. On a le risque de se faire virer, donc on peut comprendre que certaines personnes ne souhaitent pas parler et révéler cette relation.
Alors oui, effectivement, c'est sensible, c'est délicat. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est de la dentelle, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de recette toute faite. Ça dépend des fonctions, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais effectivement, d'aller au RH puis de dire, depuis quelque temps, je suis en couple avec ma subordonnée directe, peut impliquer peut-être des mesures qui vont passer par un congé modification ou si aucune autre mesure raisonnable, parce que l'employeur, avant licenciement dans ce genre de situation, il doit prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour tenter de conserver les personnes en place. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident.
Pierre Hickenberg, Laurence Dispo, on a reçu plusieurs appels et messages donc au 0800 108 208 et des messages au 076 206 12 12. Quentin ?
Oui, on nous écrit « Je me pose la question de savoir pourquoi il est de plus en plus courant de vouloir bannir les relations amoureuses du monde du travail alors qu'un des schémas classiques de la PME helvétique est celui d'un patron et de sa femme qui travaillent ensemble. » Laurence Dispo, vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai que souvent on a des relations... Voilà, des petites entreprises en Suisse qui sont formées d'un couple, en fait, quoi.
Tout à fait. Et souvent, les personnes aiment avoir ce projet en commun, partagent des valeurs, partagent des perspectives et créent des entreprises qui sont florissantes et qui sont pleines de créativité. Après, pourquoi on a tendance de plus en plus à bannir ce type de schéma ? Sans doute parce que il y a ce côté confusion qui est risqué. Il peut y avoir une confusion des rôles, il peut y avoir des ruptures aussi qui ont un impact sur l'entreprise. C'est clair que la petite PME où les deux personnes sont uniques dans l'entreprise, unique partenaire dans l'entreprise, il y a peut-être des problèmes tout à fait différents que dans une entreprise qui implique des collègues qui vont faire courir des rumeurs, qui vont peut-être se sentir un peu menacés parce qu'il y a toujours le risque d'un favoritisme ou d'une discrimination, des employeurs qui aimeraient que leurs employés restent vraiment très focalisés sur leurs tâches, etc. Donc il y a des enjeux différents.
On a une autre question d'un auditeur qui nous écrit, plutôt une remarque, une expérience qu'il a vécue. J'ai connu ma femme au travail, mais dans deux secteurs différents au sein de la société. Ça fonctionne, on est ensemble depuis 30 ans maintenant. Voilà la preuve que finalement ça marche aussi.
Absolument.
Hein. Ça finit pas toujours en cacahuètes, quoi.
Absolument.
Non, et puis effectivement aussi, quand il n'y a pas de contact direct, de liens de subordination et puis qu'on est dans une entreprise d'une certaine taille et qu'on n'est pas au contact quotidien pour l'exécution des tâches, le risque de conflit d'intérêts, de vivre son idylle sur le lieu de travail, voire de dispute, il est moindre.
Laurence Dispo.
Le souci, c'est vraiment pas l'amour au travail, c'est comment on va le gérer. C'est comment on va laisser cette relation se construire, lui donner ses chances, tout en préservant les rôles professionnels si on le souhaite.
Merci pour ces réponses aux questions de notre public. Continuez d'appeler au 0800 108 208 ou de nous laisser des messages au 076 206 1212, messages écrits ou vocaux. D'ailleurs, les vocaux, l'avantage c'est qu'on peut les passer à l'antenne pour entendre votre voix. Ça nous ferait évidemment très plaisir, mais cela dit, on lit volontiers, on relaie vos messages nous-mêmes si c'est le cas. Voilà, 9h31, on fait un détour par la route et on se retrouve dans 3 minutes.
Infotrafic RTS.
Prudence sur la bretelle autoroutière de Lausanne Sud. Des objets jonchent toujours la chaussée entre l'échangeur d'Écublon et Malais en direction de la Maladière.
Le guichet dont on parle, 0800 108 208. Un message vocal à adresser à l'émission, 076 206 12 12.
Your husband is coming.
C'était Ray avec cette question « Where is my husband ?» Je ne sais pas, peut-être ici, dans cette entreprise, puisqu'on parle d'amour au travail, Quentin Bollone de notre guichet au 0800 108 208. C'est vrai, peut-être que c'est sur le lieu de travail. D'ailleurs, vous l'avez dit,
souvent, hein,
il y a 8 personnes sur 10 qui ont déjà connu une histoire. Alors, on ne connaît pas la durée des histoires, mais déjà fait une rencontre via le lieu de travail. 0800 108 208, Pierrick Henberg, le juriste, et Laurence Dispo, la psychologue. psychologue, sexologue vous répondent jusqu'à 10h. Et on a reçu d'ailleurs un nouveau message.
Oui, de Geneviève de Genève qui nous écrit, qui nous dit « J'ai travaillé pendant 30 ans dans un département de la faculté de médecine à Genève. Notre chef disait toujours « Un bon renard chasse toujours loin de son terrier. » Et pourtant, en 30 ans, au moins 8 couples se sont formés et sont toujours ensemble. Comme quoi, ça peut marcher. Laurence Dispo, comme quoi ça peut marcher.
Comme quoi ça peut marcher. Il y a la théorie, il y a la réalité. On est deux humains, on fréquente d'autres humains, l'amour va naître.
Et comment, quels ingrédients finalement il faudrait mettre dans ces relations pour qu'elles durent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, en particulier pour le faire durer et pas que ça explose?
Oui, alors pour faire durer, bien évidemment, il doit y avoir la construction de projets autres que le travail, que les projets professionnels. Donc il y avoir un espace pour faire d'autres activités, pour parler d'autres choses, pour se découvrir autrement. Si je connais mon collègue sous un aspect, j'ai tout intérêt à apprendre à le connaître sous d'autres aspects qui vont peut-être me plaire ou me déplaire. Et on va pouvoir construire quelque chose de plus profond, quelque chose de plus intime peut-être. Et on va aussi gérer ensemble l'annonce peut-être, les rumeurs autour de nous, les réactions des personnes, hein, et on va voir comment on fait équipe face à toutes ces réactions.
On disait que finalement le secret, c'est ce petit truc qui fait que c'est un petit peu ça pimente en fait notre vie de couple, d'avoir ce secret au travail qu'on ne dit pas forcément. Ça, des fois justement quand on dévoile ce secret, est-ce que ça peut faire arrêter la relation parce qu'il n'y a plus ce petit piment justement?
Alors ce que je vois de temps en temps, c'est que l'attirance initiale est beaucoup basée sur cette notion de secret, de transgression, d'interdit, et qu'une fois l'annonce faite, une fois que toute l'entreprise est au courant, qu'il y a eu les réactions, l'attirance peut diminuer un petit peu. Donc ça va beaucoup dépendre si la relation s'est tissée sur plus que juste de l'attirance. Est-ce qu'il y a des valeurs communes? Est-ce qu'il y a un partage émotionnel? Est-ce qu'il y a des choses plus que ce flirt du début?
On se demande aussi, on se posait la question en antenne, la rupture. Comment on gère cette rupture? Parce que c'est vrai que voilà, une rupture qui peut se faire hors du travail et on continue à travailler ensemble. Comment on fait, Laurence Dispo, pour continuer finalement à travailler dans un bon état d'esprit alors qu'on n'est plus ensemble à la maison?
Si on doit se côtoyer au travail, hein, parce qu'on peut imaginer des situations où on a changé de service, où la situation a pris ce tournant-là, mais si on doit continuer à se côtoyer de manière proche, ça peut être assez délicat. On va devoir mettre un peu notre vie émotionnelle de côté, on va devoir vraiment se souvenir qu'on a la casquette pro, et on va devoir rester la tête froide, s'occuper des choses professionnelles avec cette posture, cette attitude vraiment pro. Mais parfois c'est bien compliqué, surtout quand il y a des situations où les deux n'étaient pas d'accord de rompre, où il peut y avoir parfois du harcèlement, ou en tout cas des ressentiments, des allusions, une mauvaise ambiance hein, sur la place de travail, là ça peut devenir plus compliqué.
Pierre-Kenberg, c'est quoi le pire pour un employeur à gérer juridiquement? C'est un couple au sein du travail ou un couple séparé qui travaille dans une équipe? C'est vrai qu'effectivement, comme l'a dit Laurence Dispo, ça peut amener des situations d'ambiance compliquées, voire même, elle a dit, de harcèlement.
Oui, alors effectivement, il y a, comme on l'a vu, l'obligation d'annonce qui fait qu'après, si la relation elle est problématique parce qu'il y a une hiérarchie ou une relation dite de collègue direct, ben là, l'entreprise prend les choses en main pour que ça n'existe, entre guillemets, plus, pour qu'il ne soit plus en contact direct. Mais par contre, lorsque survient la rupture, justement, c'est souvent que là, c'est délicat. Donc, si les personnes ont été séparées physiquement de leur poste de travail et sont chacun dans un département, normalement, la rupture devrait se faire sans trop se côtoyer. Mais malheureusement, même si les personnes ne sont pas en contact direct et que l'on ne souhaite pas la rupture et harcèle de messages le soir, par exemple, son ancien amoureux, eh ben ça peut être constitutif d'une forme de harcèlement sexuel. Et puis même si c'est en dehors des heures de travail, parce que c'est le soir par message, par appel, l'employé peut avoir la peur de venir au travail, de croiser son ex. Ça peut avoir des conséquences sur le climat de travail, l'ambiance de travail. Et là, à ce moment-là, l'employeur, même si ça relève de la vie privée et que ça a lieu en dehors du lieu de travail, ça a des conséquences sur le lieu de travail. Il se doit d'intervenir, de prendre des mesures pour protéger la personnalité de la victime. Ce qui veut dire, des fois, ça peut mettre en place une médiation ou autre, mais des fois, quand c'est dans le cadre d'une rupture, c'est difficile. Donc, c'est vraiment des situations qui sont très délicates à gérer pour l'entreprise, parce que si tout d'un coup, on doit à terme licencier l'un des employés, celui qui harcèle son ex, pourrait se poser la question du licenciement abusif. On me licencie pour une raison inhérente à ma personne. Le fait que j'envoie des messages le soir à mon ex en dehors du temps de travail, au lieu de travail, je la vois pas. Donc, c'est vraiment des situations qui nécessitent une fois de plus du cas par cas et une intervention de l'entreprise.
Laurence Dispo.
Oui, je voulais juste rappeler que dans le deuil relationnel, un facteur important, c'est de pouvoir éviter les contacts avec la personne. Ça nous aide tous et toutes dans ce processus de deuil, de pouvoir ne pas discuter avec, ne pas avoir de messages, ne pas voir la personne. Ça nous aide comme ça à apaiser le côté émotionnel de la rupture. Dans le cas qui nous occupe ici, même si on travaille plus dans le même service, peut-être qu'on va se croiser à la cafette, peut-être qu'on va voir le nom de l'autre dans des documents ou sur le site internet de l'entreprise. Donc l'évitement devient beaucoup plus compliqué, voire impossible, et pour les deux personnes, potentiellement vraiment compliqué à terme.
Merci pour ces précisions, cet éclairage. 9h41, nous accueillons Claudine au téléphone depuis le canton de Vaud. Bonjour Claudine.
Bonjour à tout le monde, merci à chacun pour cette superbe émission, quel que soit le poste que vous occupez. Mes parents se sont connus sur leur lieu de travail. Papa était chef de cuisine, maman responsable du service de table en salle à manger. Lorsqu'ils ont décidé d'unir leur vie, ils ont aussi décidé d'obtenir chacun la patente de restaurateur pour être ensemble et à titre professionnel, puisqu'ils l'étaient déjà, mais aussi à titre privé. Et l'avantage d'avoir eu chacun, ils étaient responsables, ok, mais ils pouvaient se remplacer mutuellement. Et lorsque papa était au service militaire, maman était devant les casseroles. Ils ont aussi pris pour pouvoir gérer le restaurant jusqu'à la fin de leur carrière, mais aussi en cas de maladie ou d'accident de l'un des conjoints. Et si l'un était décédé avant, ils auraient pu continuer au moins jusqu'à la fin du bail. En dernier lieu, le fait d'avoir chacun leur responsabilité, leur secteur d'activité, bien sûr, ils communiquaient, mais ils ont géré un restaurant où, en plus de la salle à manger, ou à l'étage, ils avaient 3 salles à manger pouvant accueillir entre 10 et 60 personnes, et dans le bâtiment voisin, entre 70 et 400 personnes pour manger, et pour le service de boissons, jusqu'à 700 personnes. C'est grâce à cette collaboration où ils ont déterminé leurs responsabilités, et bien sûr, je le répète, ils collaboraient. Si maman recevait une demande de réservation pour un mariage, elle demandait qu'est-ce que tu peux proposer pour 50 ou 100 personnes. Alors voilà, j'ai essayé d'être assez courte, mais surtout de dire, d'établir les domaines d'activité.
Voilà, merci beaucoup finalement d'être au même niveau. Il y a ce côté de pas quelqu'un qui soit vraiment l'employé de l'autre. Là, vraiment, les deux, finalement, ont co-géré ce restaurant main dans la main, on peut le dire, hein, au propre.
On peut les féliciter aussi.
On peut les féliciter. Merci beaucoup, Claudine. Ben voilà un exemple où ça a bien marché. Et puis là, typiquement, on n'est pas dans une structure d'entreprise avec des salariés où il faut annoncer à quelqu'un. Quand on est indépendant, en couple, on fait ce qu'on veut.
C'est ça, parce que effectivement, là, la situation décrite par Claudine s'apparente à une situation où monsieur et madame avaient, entre guillemets, le rôle de gérant et donc d'employeur. Donc, c'est eux qui géraient l'entreprise, c'est eux qui étaient employeurs, et il n'y a pas cette problématique-là qu'on évoquait avant, qui découle du lien de subordination de l'employé face à son entreprise.
On a reçu une question d'un auditeur par écrit qui nous dit « Un de mes collaborateurs est tombé amoureux d'une employée, ce n'est pas réciproque. Il ne vient plus dans les événements externes, les sorties, etc. alors que c'était un moteur pour nous. Cette situation péjore notre ambiance interne et notre dynamisme. » Donc là, c'est vraiment la relation finalement privée amoureuse qui n'est pas réciproque, qui péjore directement sur la vie de l'entreprise. Peut-être, Laurence Dispo, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller dans ces situations? Qu'est-ce qu'on pourrait, en tant que peut-être chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on pourrait, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer la situation ou dans ce cas personnel?
Pour le chef d'entreprise, je me rends pas bien compte de ce qui est possible. La personne, par contre, pourrait bénéficier peut-être d'une écoute. Hein. Est-ce que c'est de la part des RH ou est-ce que c'est de la part de quelqu'un d'externe? Mais pour dire à quel point c'est difficile pour elle hein, de croiser l'autre personne qui ne répond pas à ses demandes, à ses avances, parce qu'il peut y avoir des choses très très blessantes et très importantes qui peuvent être touchées là. Il peut y avoir d'anciennes blessures qui sont réactivées. Il peut y avoir vraiment une incapacité à se focaliser sur son travail si les pensées deviennent récurrentes, s'il y a des pensées qu'on appelle intrusives, hein, si la personne est tout le temps en train de penser à cette collègue. Donc on peut arriver à des situations qui sont très très douloureuses sur le plan psychique pour la personne qui est en attente et qui est dans la déception.
Ça pose la question d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour draguer au travail aujourd'hui en 2025? Vous avez parlé de harcèlement, Pierrick Henberg. Là, typiquement, il y a un employé qui avait des sentiments ou de l'attirance pour une collègue. Il l'a fait savoir puisque voilà, on sait que c'est pas réciproque. C'est aussi très délicat, ça. On peut tout de suite dire harcèlement, là.
Oui, alors là on tombe. Là, on a évoqué jusqu'à présent des relations consentie, mais effectivement, on doit distinguer le flirt du harcèlement sexuel. Le flirt, c'est quelque chose qui est consenti par les deux personnes, alors que le harcèlement, c'est des avances, des propos, voire même des gestes qui sont non désirés, non sollicités. Et là, dans le cas, c'est plutôt l'amoureux et conduit qui se mettait en retrait, mais quand on commence à flirter, le flirt, ce qui est problématique, c'est que, alors bon, il peut soit depuis le début ne pas être souhaité parce que la personne, il n'y a pas d'attrait réciproque, ou il peut être souhaité jusqu'à un certain parce que c'est, voilà, mais à un moment donné, il y a une des personnes dans le flirt qui ne veut plus, et à ce moment-là, on tombe très vite dans le harcèlement sexuel, et on a une jurisprudence qui est assez abondante où, justement, la personne qui souhaite entretenir une relation avec une autre était conduite et puis se retrouve victime de harcèlement sexuel qui prend des formes très diverses comme de la pression sur le lieu de travail, de la menace sur son emploi, des messages et ce genre de comportements sont clairement à prohiber et la personne qui en est victime doit s'adresser au plus vite aux ressources humaines pour qu'une enquête soit mise en place, que des mesures de protection de la personnalité soient mises en place pour que le harcèlement cesse et dans les cas les plus graves, se séparer de l'auteur. Parce qu'effectivement, en flirt non consenti, c'est plus du flirt, c'est du harcèlement et c'est une grave atteinte à la personnalité.
Laurence Dispo?
Oui, Maître Henberger parle de consentement ou fait allusion au consentement. C'est clair qu'on peut assez difficilement imaginer ou on peut vraiment se poser des questions sur le consentement libre et éclairé dans les situations où, par exemple, il y a une inégalité hiérarchique. Est-ce qu'on peut vraiment dire un oui enthousiaste et éclairé s'il y a une envie de plaire, une peur pour son travail ou simplement la peur de la désapprobation de l'autre personne? Donc ce sont des cas assez délicats quand même.
Des histoires d'amour parfois compliquées comme celle de Johnny Hallyday avec Gabriel aussi qui ne voulait pas mourir d'amour enchaîné, je crois que c'est ça dans la chanson, on écoute.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit.
et entendre la vie ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Mais je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. La nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis.
Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire?
Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine. Oui, j'ai refusé
mourir d'amour enchaîné.
Oui, j'ai refusé
mourir d'amour enchaîné.
Johnny Hallyday, Gabriel à 9h51, dernière ligne droite de notre guichet où on parle d'amour au travail, tant sur le plan juridique avec Pierre Hickenberg qui est juriste au cabinet droit actif, que du côté relationnel avec Laurence Dispo qui est psychothérapeute, sexologue, thérapeute de couple. Et nous accueillons au 0800 108 208 Anne-Christine du canton de Vaud. Bonjour.
Oui, bonjour.
Racontez-nous.
Oui, alors... Oui, moi je voulais témoigner par rapport à l'évolution des, justement de l'amour au travail. C'est que mes parents étaient pilotes, mon père était pilote de ligne chez Swissair, ma mère hôtesse de l'air. Mmh. Ils auraient eu 100 ans aujourd'hui et 100 ans et 95 ans. Et malheureusement, ils ne sont plus là. Mais pour dire qu'à l'époque, une hôtesse de l'air qui se mariait devait arrêter de travailler. Et donc, ma mère a connu mon père et a arrêté tout de suite de travailler, même sans avoir d'enfants. Et c'était donc... Les hôtesses de l'air devaient être célibataires.
Ah, donc c'est pas parce qu'elle s'est mariée avec un pilote de la même compagnie, c'est
non,
juste mariée tout court, ça dégage.
Mariée tout court, voilà, dégage. Oui, ah. Exactement. Et puis, voilà, donc c'est dire que, bah, on connaissait au moins 5 couples, je connaissais 5 couples qui étaient dans cette situation où bah, les femmes arrêtaient de travailler, elles avaient toutes rencontré un pilote, c'était un peu une agence matrimoniale aussi, il faut dire. Voilà.
Et... C'était en quelle année, juste pour nous donner la
Alors,
référence?
Alors, donc, je dirais il y a 70 ans environ, à peu près 70 ans.
Et donc, ouais, vous êtes un bébé suissaire, si ça s'appelle
oui,
comme ça.
Oui, on est nombreux des bébés ouais. suissaires, je peux vous dire.
Mais les pilotes oui, qui se mariaient, eux, pouvaient rester. C'était vraiment les hôtesses de l'air qui devaient...
Ah, oui, absolument, absolument. Et puis, il n'y avait pas de steward, c'était pas encore l'époque. Mm-hmm. Ouais, non.
Ouais. Et quel était le raisonnement, alors?
Le raisonnement de Swissair, vous voulez dire?
Oui, oui, oui. Comment ça s'expliquait?
Ben, comment ça s'expliquait? C'est parce que c'était aussi une époque où les femmes n'avaient pas encore de compte en banque, elles dépendaient entièrement de leur mari, et puis il fallait que, ben, voilà, elles avaient trouvé le sponsor de leur vie, j'imagine, ben, voilà, place aux autres. Et puis il y avait aussi des critères esthétiques pour être hôtesse de l'air, hein, il fallait être, voilà. Une très belle femme, il y avait des critères comme ça, quoi, vraiment. Mmh. Il y a eu un reportage de la BBC qui est très intéressant à ce propos sur les recrutements des hôtesses de l'air. Ouais.
Merci beaucoup pour ce rappel historique aussi. C'est vrai qu'on le dit maintenant, c'est un peu entré dans l'histoire parce que c'est, Dieu merci, plus comme ça dans le monde du travail, mais ça l'a été, c'est pas si vieux. Merci Anne-Christine pour ce téléphone.
Perry Kahnberg, est-ce que ça pourrait encore exister, ce genre de situation aujourd'hui?
Alors écoutez, effectivement, une directive de ce type-là qui dit vous devez être célibataire et puis si vous vous mariez et que vous ne l'êtes plus, vous êtes licencié. Une telle directive serait clairement illicite parce que sans lien direct avec l'exécution du travail, on voit pas en quoi le célibat est en lien avec une bonne exécution du travail. Et licencier une personne par le fait qu'elle se marie serait clairement un licenciement abusif pour un motif inhérent à la personne. Donc effectivement, aujourd'hui, ce serait clairement plus possible.
On a le temps à 9h55 de prendre un dernier message. C'est un vocal d'un auditeur que voici.
Ouais, bonjour à vous. Écoutez, moi je crois à une relation amoureuse, un flirt, officiel ou pas. C'est pas vraiment le souci. Le souci, c'est les ragots. Le qu'en dira-t-on ? Parler derrière le dos des gens. Je crois que c'est ça qui détruit les ambiances au travail. Merci à vous, bonne journée.
Ah, machin, il couche avec celle-ci. C'est vrai que c'est un peu ça aussi, des fois, à la machine à café, Laurence Dispo.
Oui, tout à fait. Et on parlait de tout à l'heure de est-ce qu'on annonce, est-ce qu'on annonce pas, comment est-ce qu'on annonce. Annoncer, c'est mettre des mots sur quelqu'un, quelque chose qu'on avait perçu, que souvent les collègues avaient senti, avaient perçu, avaient lu entre les lignes. Et il n'y avait pas de mystère. Mais pour arrêter le côté un petit peu malveillant des ragots, annoncer, ça annonce la couleur aussi.
Alors c'était oui, Pierre Kahnberg.
Et puis effectivement, c'est vrai que les ragots, les rumeurs de l'entreprise, c'est aussi un des problèmes qui, en lien avec l'amour au travail, peut se poser problème. Parce que là, c'est les collègues qui interagissent, qui parlent sur le dos des amoureux, et puis à ce moment-là, portent atteinte à leur personnalité en propageant des rumeurs, ce qui peut aussi nécessiter une intervention de l'employeur de protection de la personnalité. D'où le fait qu'il est important que l'employeur puisse contrôler aussi ce genre de situation.
Une auditrice avec un message un peu agacé qui nous écrit « Le directeur qui a des gestes et mots inappropriés et qui ensuite dit qu'il n'a rien fait parce qu'il est marié, on en parle ou pas ?» elle nous dit. Et les ressources humaines qui ne font rien. C'est des cas, ça aussi, qui existent évidemment. Là, on parlait de harcèlement tout à l'heure. Ça arrive aussi parfois que c'est nié et on peut rien faire de ça.
Non, alors ce qui est problématique par rapport au message que vous venez de lire, c'est qu'apparemment ça viendrait du directeur, donc qui est entre guillemets l'organe qui représente l'employeur, et souvent les RH sont subordonnés au directeur, d'où le fait qu'elles peuvent avoir dans ce genre de situation de la difficulté à intervenir. Mais c'est pour ça que dans ce genre de situation, normalement les entreprises devraient avoir une personne de confiance neutre, externe à l'entreprise, qui est à même de pouvoir traiter des cas de harcèlement. Et puis si rien n'est fait, parce que le directeur, c'est le directeur, il y a toujours possibilité aussi de s'adresser au conseil d'administration qui est au-dessus du directeur.
Nous avons une question qui nous a été posée par écrit. Constaté lors d'un audit dans une entreprise concernant un couple qui travaille depuis 20 ans dans des secteurs n'ayant pas de rapport, malgré une transparence totale et un accord explicite de la direction, le couple doit gérer la désapprobation, la frustration, la jalousie de plusieurs membres du personnel, lesquels sont allés jusqu'à s'en plaindre au syndicat ainsi qu'à l'autorité cantonale. Les pressions sont telles qu'ils envisagent de donner leur démission.
Laurence Dispo, ça peut aller loin, hein?
Ça peut aller loin, oui. Et on parlait tout à l'heure d'aller chercher de l'aide auprès des ressources humaines ou ailleurs. Il faut déjà avoir une certaine force et un certain recul par rapport à la situation et de se dire, je suis dans mon bon droit, je peux me défendre, je peux me protéger et être bienveillant vis-à-vis de soi. Et ce qu'on voit souvent dans les situations où il y a de la pression, que ce soit sexuelle ou autre, c'est qu'à un moment donné, on peut se demander si c'est pas nous qui avons un problème, si on n'avait pas cherché, entre guillemets. Donc, la personne, je dirais, n'hésitez pas à consulter si vous êtes dans une situation comme ça et de chercher une aide aussi personnelle.
Voilà, et à l'extérieur, s'il le faut, comme nous le disait Pierrick Henberg aussi. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre public durant cette heure. Laurence Dispo, psychothérapeute, sexologue et thérapeute de couple. Vous avez écrit notamment le livre Le désir dans le couple, comment gérer le décalage d'envie sexuelle sur la durée, on le dit en passant. C'était l'année dernière aux éditions La Musardine. Et Pierrick Henberg, juriste au cabinet Droit Actif. Une très belle journée à toutes les deux.
Merci infiniment.
Et on remercie
à
vous aussi. Les standardistes du jour, Vlada Nazarenko, Anouk Verli et Audrey Zano, avec Jean-Claude Gailly en régie. Demain, autre guichet, la charge, ou plutôt la surcharge mentale et comment lâcher prise dans ces cas-là. Et dans un instant, c'est vous, Lucia Silig, avec CQFD. Vous vous intéressez, vous, aux épisiotomies?
Oui, on va voir que ces incisions qui sont parfois pratiquées pour faciliter les accouchements ont diminué, ont été divisées par 3 en quelques années en Suisse. On va voir si ça change quelque chose. Tout ça, c'est dans quelques minutes.
Juste après les infos de 10h que voici sur RTS Première.